Come on, girls. Come on, boy.
Let's go. Let's go.
C'est reparti pour la troisième saison. Mika aka Andy Mix pour vous servir aux platines et au PC avec mon ami Max. Salut Max.
Salut Mika, salut tout le monde.
Voilà, Mix Station le samedi soir c'est en direct et Max sera là toute la saison pour présenter Funky Gombo. Funky Gombo est une émission qui s'anime autour de la musique de la Nouvelle-Orléans, c'est bien ça?
Complètement.
Et à savoir que c'est pas juste des fanfares, des big band jazz, et que tu vas bien entendu, et j'espère pouvoir faire profiter et expliquer tout ça donc aux auditeurs, qu'est-ce que et pourquoi, comment c'est né, et la musique qu'on la connaît actuellement, c'est forcément fondé sur une multitude de mélanges et de styles musicaux. Tu auras bien entendu le temps, une heure à peu près, approximativement une heure pour nous expliquer tout ça. Merci en tout cas d'être là, Max. Et Mix Station, ça va être cette semaine la Funky Gombo pour la deuxième émission. Et on aura le superbe, le magnifique DJ L'Acoustique pour venir nous présenter un événement qu'il animera au XXL à Blois. Donc il viendra nous faire un petit mix comme il l'avait fait l'année dernière. Pour l'heure, c'est la Funky Gombo. Je laisse la place pour plus d'une heure avec Max. Ciao.
Yes, merci Mika. On va, avant même de commencer l'émission, à proprement parler, faire un petit rectificatif. Je me suis un petit peu emballé le mois dernier, l'émission précédente, en vous parlant de ce qu'était le gumbo en tant que plat.
Ah, le fameux ragoût.
Voilà, justement, j'étais persuadé que c'était une soupe, ouais. Et il s'agit effectivement plutôt d'un ragoût, donc quelque chose qui doit vraiment mijoter pendant de longues heures. Et j'étais aussi persuadé que ça se faisait uniquement avec des fruits de mer, crevettes et compagnie. Sauf que ça peut tout à fait être au poulet. Voilà, donc petite précision, correctif. Pour les plus curieux et les plus gourmands, on a réfléchi à ça, peut-être mettre la recette sur la page Facebook qui est à venir. Donc surveillez ça de très près.
Donc sur la page ça devrait arriver.
Oui, ouais,
Gombo,
ouais, tout
G-U-M-B-O.
À fait.
Gombo,
tout à fait, tout à fait.
Cool.
Bon, on va commencer l'émission à proprement parler. J'ai envie aujourd'hui de vous parler d'un bluesman atypique, une grande figure de la scène New Orleans, Snooks Eaglin, surnommé le jukebox humain. De son vrai nom, Ferd Eaglin, il est né à la Nouvelle-Orléans en 1936 et il y a toujours vécu jusqu'à sa mort en 2009. Un début assez difficile, à peine âgé de 19 mois, on lui a diagnostiqué un double glaucome compliqué d'une tumeur au cerveau.
Waouh.
Ouais, pas simple.
Bébé en plus quoi.
Tout 19 mois.
Petit, 19 mois.
Opéré d'urgence, long traitement pendant plus de 2 ans. Il s'en est sorti miraculeusement, malgré un diagnostic plutôt sans espoir. Par contre, séquelles de l'opération, du traitement, une cécité totale. Voilà. Quand on s'intéresse à sa formation musicale, c'est assez représentatif, assez emblématique. C'est pratiquement un modèle du genre. Dès 6 ans, il se fait offrir une guitare par son père. pour lui changer les idées, le égayer un peu son quotidien d'aveugle. Bah ouais. Son père ayant décelé un intérêt précoce pour la musique.
Ah, tu perds les yeux.
Et ouais, quelque part. Ouais.
Tu développes d'autres capacités, quoi.
Guitare, donc, sur laquelle le jeune Snooks apprend tout seul à rejouer les morceaux qu'il entend, soit à la radio, soit sur disque. Il devient ensuite choriste dans diverses églises de la ville. Et à l'âge de 11 ans, il gagne le premier prix d'un concours musical organisé par une station de radio locale qui s'appelait WNOE. 11 ans, premier prix, ça place déjà un peu le bonhomme. Il monte son premier groupe à 16 ans, un groupe qui s'appellera les Flamingos. Une formation comme il commence à fleurir en fait par centaines un peu partout aux États-Unis, assez typique de cette époque, qui anime bals, soirées, concerts et autres, comptant à leur répertoire tout ce que le public demande en fait. Des blues, des rock'n'roll, des twists, tous les succès du moment.
Classique d'époque, ouais.
Et c'est là en fait qu'est la grande, grande force de Snooks Higlin. Il peut tout jouer. Il lui suffit d'entendre un morceau une fois pour le rejouer le soir même, en lui insufflant sa touche personnelle, donc ça, en l'occurrence un phrasé de guitare vraiment unique, et une voix pouvant aller de rocailleuse à cristalline, qui a souvent été comparée à celle de Ray Charles. Dans l'ensemble de sa carrière, Snooks il a toujours fonctionné comme ça. Si un morceau lui plaît, il se l'approprie et il le restitue à sa sauce, piochant dans un gigantesque répertoire allant du blues traditionnel au rock'n'roll, de la ballade country au gospel, du rhythm and blues, voire jusqu'à la pop. Et à la fin de sa vie, on estimait qu'il connaissait et pouvait interpréter plus de 2500 morceaux. D'où le surnom Jukebox Humain, The Human Jukebox. D'accord. Sa carrière discographique, elle a commencé il y a 20 ans.
Ça, c'est...
Petit accident dans le studio, c'est rien, c'est rien. Avec un premier album donc, sorti à l'époque chez Folkway Records. On est en 1956 et Harry Oster, un folkloriste assez réputé de l'université de Louisiane, est à la recherche de talents perpétuant la tradition du blues rural. Il rencontre Snooks et décide immédiatement de le signer. Pour enregistrer l'album donc New Orleans Street Singer. 15 morceaux de blues chantés, accompagnés de sa seule guitare acoustique.
Donc un album solo en acoustique.
Tout à fait, superbe album, où Snooks interprète à sa façon unique des grands standards de blues, et dont on va écouter tout de suite deux extraits, Snooks Higlin sur Studio ZEPH.
One's got one bourbon and one beer. One's got one bourbon and one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I don't want no trouble, so have no fear. One's got one bourbon, one beer. One's got one bourbon, one beer. One's got one bourbon, one beer. Hey, Mr. Bartender, look here. I don't want no trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. Thank you. One scotch, one bourbon, for one beer. One scotch, one bourbon, for one beer. Hey, Mr. Bartender, look here. I don't want no trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Look down, look down, that lonesome road before you can be on. Look down, look down, that lonesome road before you can be on. Look down, look down, that lonesome road before you can be on. Look down, look down, that lonesome road before you can be on. Look down, that lonesome road before you can reach.
Snooks Eglin, donc, sur Studio F, avec ses premiers enregistrements de 1956. Je rappelle juste le nom de l'album, c'était New Orleans Street Singer, et qui avait donc été enregistré à l'époque par Harry Oster. À partir de 58 et après tout au long des années 60, il va enregistrer une série de 10 45 tours en tout pour le label Impérial sous la direction de Dave Bartholomew, qui sont aujourd'hui très prisés des collectionneurs mais qui rencontrent à l'époque aucun succès commercial. Faudra attendre en fait 71 du coup pour le retrouver en studio.
Genre 20 ans après. Là, on était dans les années 50.
On était en 50. Non, regarde, si tu veux. Donc, premier enregistrement, c'est 56.
56.
Ensuite, de 58 jusqu'à la moitié des années 60, admettons, un petit 45 par-ci par-là. Une D'accord. série de 10 mmh. en tout. Qui, malheureusement, n'ont pas réellement marché.
Ça décolle pas, là.
Et là, 71 pour le retrouver en studio. Avec de nouveau un disque de blues acoustique. Enregistré cette fois par Quint Davis. Un producteur fou de blues qui le persuada de ne pas décrocher. Alors que justement Snooks, un peu découragé par le manque de succès, songeait à se retirer de la musique.
I need your love all the more.
Alors, pourquoi, alors que Snooks Iglin a toujours aussi joué en groupe, dans les bars, les clubs, les casinos de la ville, rappelez-vous des flamingos dès l'âge de 16 ans, pourquoi donc il ne se voit proposer que des disques enregistrés en solo? Bah, c'est un peu le drame de son début de carrière, où en fait ses premiers enregistrements l'ont enfermé dans un rôle, celui du chanteur aveugle, le chanteur des rues, le troubadour, le black minstrel. Malheureusement, lui, il ne veut pas, il a jamais voulu être limité à cette figure de minstrel noir, si on traduit. Il se rêve plutôt comme un entertainer de rhythm and blues, jouant avec son groupe sur scène et en studio. Il voudrait un son plus électrique, plus moderne. Et c'est 1977 qui lui donnera enfin l'occasion de concrétiser ce rêve avec l'album Down Yonder, dont il dira ébahi en réécoutant les prises au casque avant le mixage, que c'était enfin le son qu'il voulait obtenir et que c'était son meilleur enregistrement jusque-là. Sur cet album, enregistré à la Nouvelle-Orléans en seulement 2 jours, il est accompagné par l'illustre Ellis Marsalis au piano, Clarence Ford au saxo ténor et les frères George et Bob French, respectivement basse et batterie. On va tout de suite en écouter 2 morceaux, rendant enfin justice à toute l'étendue de son talent. Vous écoutez Funky Gumbo sur Studio F, c'est Snooks Iglin, QV77.
1, 2, you know what to do. Yeah. Bye.
Ouais, bah ça c'était bien cool, ça m'a bien plu. Ça c'était cool.
Bah tu vois, à partir de là, il n'y aura plus de marche arrière. Stoux continuera sur sa lancée, enregistrera plusieurs albums à son nom, toujours accompagné de la crème de la scène New Orleans. Mais il fera aussi des participations diverses, avec d'autres groupes illustres, étant très demandé pour son jeu de guitare.
Mais bon, on l'entend, de toute façon c'est carré, c'est fluide,
c'est
métronome le gars, c'est tac tac tac.
Il sera aussi, si tu veux, beaucoup réédité sur des compiles de blues où on retrouve ses premiers enregistrements. Mais le son qu'il aura atteint et sur lequel il va rester, c'est ça. C'est le,
pendant ces années-là,
du
les
blues
années,
électrique et très funky.
Début 70, quoi. Mi-70.
On va d'ailleurs clôturer ce rapide tour d'horizon de sa carrière avec l'album qui a suivi. Enregistré en octobre 86 et qui s'appelle Baby, You Can Get Your Gun, avec le renfort du gigantesque Smokey Johnson à la batterie, David Lasty au ténor sax, Ron Levy orgue et piano, et Irving Charles Jr. à la basse. Écoutez les morceaux Oh Sweetness, suivi de Drop the Bomb. Jamais le blues n'avait sonné aussi funky.
I'm sitting here wondering.
Ça, c'était bon, ça.
Et pour terminer le cas Snooks et Glynn, je vous propose un court morceau instrumental tiré du même album, Baby You Can Get Your Gun, de 86, qui illustre parfaitement son côté iconoclaste. Un morceau à la guitare basé sur une gamme de flamenco, appuyé par le beat funky de Smokey Johnson à la batterie. Un morceau improbable. Quand on vous dit que Snooks et Glynn n'en fait qu'à sa tête, un guitariste de blues aux influences décidément très éclectiques.
Ouais, pas mal la rythmique là-dessus.
N'est-ce pas ? Tout ça va d'ailleurs nous amener à une transition toute trouvée. Il est temps, Mika, de lever le voile sur un des secrets les mieux gardés du funk, les batteurs de la Nouvelle-Orléans et leur rythme second line.
Dossier.
Gros dossier. Pour n'en citer que quelques-uns, Earl Palmer, Smokey Johnson, James Black, Charles Hungry Williams, Joe Zigaboo Modelist, bon, la liste est très longue, ont tous en commun ce sens inné de la syncope, le contretemps caractéristique du funk qui lui donne son groove.
Bah, syncopé à mort. Mm.
Donc ce sens de la syncope, propre au batteur New Orleans, en fait il est directement issu des traditionnels second line qui ont influencé leur style de jeu. Qu'est-ce que le second line, me direz-vous ?
Je parie que tu vas nous le dire.
Bah, le second line, c'est un élément fondamental de la culture New Orleans, ville célèbre pour ses parades musicales, n'est-ce pas ? Et en fait, c'est le groupe de participants qui suit l'orchestre en chantant, en dansant, en jouant des percus lors des parades. L'orchestre en question composant la first line.
D'accord, donc c'est pas, ils font pas partie de l'orchestre, la seconde
line.
C'est
le public, qui se greffe okay. Au fur et à mesure, qui suit une parade. Et la particularité rythmique de cette seconde line, c'est de jouer en contretemps syncopé, ni sur le beat, ni off beat, bel et bien entre les temps.
Entre les temps qui créent des
syncopes. Ce qui nous donne quoi ? Un résultat unique et il faut bien le dire totalement irrésistible. Un appel à la danse, à la fête.
C'est carrément dansant, tu m'étonnes.
Très dansant. Et donc tous les batteurs de la Nouvelle-Orléans apprennent à jouer dans le style second line. Et c'est ça y est pour beaucoup à la sonorité si particulière à toutes les musiques, parce que c'est vrai que c'est tout style confondu de cette ville.
Bah oui.
Pour illustrer tout ça, du moins comment l'influence second line a pu s'infiltrer dans le style de jeu des batteurs. Je vais vous faire écouter un solo de batterie typiquement Nouvelle-Orléans, tout en contretemps, entraînant à souhait.
Tu me le dédicaces ou pas celui-là ?
Il est bien évidemment pour toi, Mika.
Oh, c'est gentil.
Vous êtes sur Studio Zef, New Orleans Style, baby.
Funky Gumbo.
On va continuer à explorer ces sonorités second line.
Génial.
Avec un maître incontournable de cette école. Il s'agit de Joseph Smokey Johnson, qu'on avait déjà entendu le mois dernier.
Il est connu.
Et qui accompagnait tout à l'heure ce cher Snooks. Avec ici un morceau signé chez Nola Records au milieu des années 60. I Can't Help It, 4 minutes 17 de batterie endiablée. Thank you. Vous êtes bien sur Studio Def, bienvenue dans la Funky Gumbo. Pour ceux qui nous rejoignent, étant rentrés de plein pied dans le funk second line, typiquement New Orleans, il est temps d'aborder un groupe mythique qui pourrait presque résumer le style à lui tout seul. Et je veux bien sûr parler des Meters. Grand, grand groupe. Mika, tu connais les Meters.
Meters.
Of course. Formé en 67 et initialement nommé The Neval Sound, le groupe est composé donc de Art Neval au clavier, Léo Nocentelli à la guitare, George Porter à la basse et le fameux Joe Zigaboo Modelist à la batterie. Dès 1968, ils changent de nom pour devenir les Meters. Et ils commencent à enregistrer jusqu'en 77 une série de disques, tous produits par Alain Toussaint, et reposant sur la même recette. Un funk instrumental lourd, ultra syncopé, d'une efficacité redoutable, qui donnera lieu à un succès immédiat et national, sortant largement des frontières de l'État. On compte plus le nombre de groupes hors de la Nouvelle-Orléans qui ont à leur actif au moins une reprise des Meters. Et là, j'inclus des pointures comme Grand Green ou même, je pensais à Jimi Hendrix, pour te dire. Donc, gros succès national, voire international. Et même pas seulement à leur nom en tant que groupe, parce qu'ils ont aussi, si tu veux, joué sur de nombreux projets locaux pour des artistes tels que Ernie Cadou, Lee Dorsey, Dr. John, mais aussi pour des artistes hors de la Nouvelle-Orléans. Et le plus bel exemple, ça reste Label, le groupe Label, et leur fameux tube Lady Marmalade, si tu le remets. Bah, c'est les Meters qui jouent derrière, tu vois. Le groupe finira par se séparer à la fin des années 70, mais en fait reprend forme quasiment dans la foulée, sous un autre nom, les Neville Brothers. La même base instrumentale, si tu veux, les mêmes gars aux instruments, mais rejoint au chant par les frères de Art, donc à savoir Aaron, Cyril et Charles Neville, qui donc s'appellent, je l'ai dit, les Neville Brothers, nouveau nom du groupe, et qui seront signés chez Warner, se dirigeant vers un son pop plus grand public, on va dire. Nous, ce qu'il faut surtout retenir des Meters, ce qui nous intéresse en tout cas, ici, c'est leur sens de la formule, presque un style en soi, des compos simples, mais d'une efficacité diabolique, un funk super compact qui fait mouche à chaque fois et auquel personne ne peut rester insensible, quoi. Les Meters, c'est le son funky New Orleans. We'll be right back. Voilà, on vient d'écouter un petit florilège des bombes funk signé The Matters. Toutes les quatre étaient tirées en fait de leur deuxième et troisième album, respectivement Look Pie Pie et Struttin', sortis en fait à la suite, les deux en 1970, dans la même foulée. Continuons ensuite sur notre lancée avec un groupe assez obscur qui s'appelle Sam and the Soul Machine et qui pourrait presque être considéré comme les Meters avec des cuivres de la New Orleans. En effet, même riff, guitare-clavier, même sens rythmique très marqué, au service d'un funk instrumental, ouais, on peut le dire, très largement inspiré des compos des Meters, et où seuls les sax permettent en fait de parfois les différencier. Parce que attention, il ne s'agit pas d'une pâle imitation, mais bien un groupe très solide qui en fait suit le sillon creusé par leurs aînés quoi, et sans chercher à s'en cacher. Ça joue, c'est du très très lourd. Ils ont été, tous les morceaux là, qu'on va écouter, ils ont été enregistrés à la Nouvelle-Orléans entre 69 et 74, et on va en écouter trois morceaux donc, et ils vont vous donner une petite idée mine de rien du rayonnement qu'ont pu avoir les Meters sur la scène funk locale. Jugez par vous-même. We'll be right back. De retour sur Studio ZEF, vous êtes toujours sur la Funky Gumbo avec à l'instant donc les Sam and the Soul Machine et leur funk sous influence Meters. On va terminer cette émission en restant justement en compagnie des Meters qui accompagnent ici le grand Dr. John sur l'album In the Right Place de 1973. Un album culte, mythique, produit par Alain Toussaint, où les Meters servent de section rythmique de luxe pour le grand prêtre vaudou, roi du gris-gris Dr. John, de son vrai nom d'ailleurs, pas forcément très connu ça, Mac Rebenac. Doté d'une voix éraillée unique, d'un univers très personnel, teinté de mysticisme, de rites vaudou, Dr. John, qui est aussi surnommé le Night Tripper, est vraiment un artiste à part, qui a toujours mis un point d'honneur à mettre en avant la culture et les traditions de sa ville natale tant aimée, au point d'en devenir un peu son porte-parole, en tout cas son représentant sur la scène rock internationale. On va écouter deux morceaux tirés donc de cet album In the Right Place. Le premier étant Peace Brother Peace, suivi de I've Been Hoodooed, que nos fidèles auditeurs devraient reconnaître comme étant le morceau mystère du mois dernier. Et oui, bien sûr, il s'agissait de ce bon vieux docteur, vous l'aviez deviné, une voix et une ambiance inimitables.
We'll be right back.
Merci à ce bon vieux docteur John. Et merci à vous tous, à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. On va se quitter avec le morceau qui est un peu l'hymne officiel du carnaval de la Nouvelle-Orléans et quasiment aussi celui de notre émission. Je ne vous donne ni le titre ni l'interprète, mais on va longuement, largement en reparler dès le mois prochain. Pardon, sur Studio Zef, dans un nouvel épisode de Funky Gumbo.
I wanna know what's carnival for. Going down in your lane, I've got my ticket in my hand. Going down in your lane, I've got my ticket in my hand. When I get in your lane, I wanna see the Zulu King. My standing place until I see the Zulu Queen.
Thank you.